Chapitre 4, contenant deux lettres de styles très différents. Mon respectable ami, je vous ai informé dans ma dernière que l'on m'avait interdit l'usage des eaux, l'expérience ayant démontré qu'elles augmentaient plutôt qu'elles ne diminuaient les accès de ma maladie. Maintenant, je dois vous apprendre une nouvelle qui, je crois, affligera plus mes amis qu'elle ne m'a affligé moi-même. Les docteurs Harrington et Brewster m'ont annoncé qu'il n'y avait aucun espoir de guérison pour moi. J'ai lu quelque part que le grand usage de la philosophie est d'apprendre à mourir. Je ne déshonorerai pas la mienne au point de paraître étonné de recevoir une leçon que je dois être censé avoir si longtemps étudiée. Quoiqu'à parler franchement, une seule page de l'Évangile en apprenne plus à cet égard que tous les volumes des philosophes anciens et modernes. L'assurance qu'il nous donne d'une autre vie est pour un bon esprit un soutien beaucoup plus ferme que toutes les consolations tirées de la nécessité de la nature, du vide ou de la satiété de nos plaisirs ici-bas, ou que tous les autres lieux communs débités si emphatiquement, qui peuvent bien quelquefois nous armer d'une patience opiniâtre et nous faire supporter la pensée de la mort, mais ne peuvent jamais nous élever jusqu'à la mépriser réellement, et beaucoup moins encore jusqu'à nous la faire regarder comme un bien réel. Non que je veuille donner à entendre que j'accuse d'un horrible athéisme, ou même d'une dénégation absolue de l'immortalité de l'âme, tous ceux qu'on appelle philosophes. Beaucoup d'entre eux, tant anciens que modernes, ont, par les seules lumières de la raison, conçu quelque espérance d'une vie future. Mais en réalité, ces lumières étaient si faibles et si pâles, cette espérance était si incertaine et si précaire, que l'on peut douter sans injustice de quel côté penchait leur croyance. Platon lui-même termine son Phédon en déclarant que ses plus forts arguments ne vont qu'à établir une probabilité. Et Cicéron lui-même semble plutôt désirer croire que croire réellement la doctrine de l'immortalité. Quant à moi, pour être très sincère avec vous, je n'y ai jamais cru bien sérieusement avant d'être bien sérieusement chrétien. Vous serez peut-être étonné de cette dernière expression. Mais je vous assure que ce n'est que depuis bien peu de temps que je puis avec vérité m'appeler de ce nom. L'orgueil de la philosophie avait enivré ma raison, et la sagesse la plus sublime me paraissait, comme aux anciens Grecs, une sottise impertinente. Dieu a eu cependant la bonté de me montrer à temps mon erreur et de me conduire dans le chemin de la vérité, avant que je tombasse pour jamais dans les ténèbres les plus profondes. Je sens que je commence à m'affaiblir. Je m'empresse donc d'arriver au but principal de cette lettre. Quand je pense aux actions de ma vie passée, je n'en connais pas qui pèsent davantage sur ma conscience que l'injustice dont je me suis rendu coupable envers ce pauvre malheureux que vous regardiez comme votre fils adoptif. Non seulement j'ai fermé les yeux sur l'infamie des autres, mais j'ai été personnellement coupable d'injustice envers lui. Croyez-moi, mon cher ami, quand je vous proteste sur la parole d'un mourant, qu'il a été bassement calomnié. Quant au fait principal, d'après le faux exposé duquel vous l'avez chassé de chez vous, je vous affirme solennellement qu'il en est innocent. Lorsque l'on vous croyait sur votre lit de mort, il fut le seul dans la maison qui témoigna une douleur véritable, et ce qui arriva ensuite ne provint que du délire de sa joie en apprenant votre rétablissement, et je suis fâché de le dire, de la bassesse d'un autre. Mais mon désir est de justifier l'innocent, je ne veux accuser personne. Croyez-moi, mon ami, ce jeune homme a le cœur le plus noble et le plus généreux, le plus capable d'une parfaite amitié, la plus grande intégrité. En un mot, il a toutes les vertus qui peuvent anoblir une créature humaine. Il a quelques défauts sans doute, mais on ne peut mettre de ce nombre le moindre manque de respect et de reconnaissance envers vous. Au contraire, j'ai la persuasion que quand vous l'avez renvoyé de chez vous, son cœur vous regretta personnellement plus que tout le reste. Des intérêts purement humains ont été les vils et criminels motifs du secret que je vous en ai fait si longtemps. Je ne puis en avoir d'autre aujourd'hui pour vous le révéler que le désir de servir la cause de la vérité, de rendre justice à l'innocent et d'expier de tout mon pouvoir une faute passée. J'espère donc que cette déclaration aura l'effet désiré et rétablira dans vos bonnes grâces ce jeune homme qui les mérite si bien. Si je peux l'apprendre avant de mourir, ce sera la plus grande consolation qui puisse être apportée, monsieur, à votre très obligé, très obéissant et très humble serviteur, Thomas Square. » Le lecteur, après cette lettre, ne s'étonnera plus guère de la révolution si visiblement opérée dans M. Allworthy. Quoiqu'il reçût de Thwackum, par le même courrier, une autre lettre d'un genre très différent, que nous allons transcrire ici, attendu qu'il se pourrait très bien faire que ce fût la dernière fois que nous aurons l'occasion de nous occuper de lui. « Monsieur, je ne suis point du tout surpris d'apprendre par votre digne neveu une nouvelle preuve d'infamie du jeune pupille de M. Square, l'athée. Je ne m'étonnerai donc d'aucun meurtre commis par lui, et je prie ardemment le ciel que votre propre sang ne scelle point son emprisonnement éternel dans le séjour des pleurs et des grincements de dents. Quoique vous deviez avoir des motifs suffisants de repentir pour les trop nombreuses et inexcusables faiblesses que vous avez montrées dans votre conduite envers ce misérable, et qui ont tourné si fort au préjudice de votre famille légitime et de votre réputation, quoique je puisse raisonnablement supposer que votre conscience en est suffisamment tourmentée à l'heure où je vous écris, je croirais cependant manquer à mon devoir si je négligeais de vous donner quelques avis qui pourraient servir à vous éclairer sur vos erreurs. Je vous prie donc sérieusement de réfléchir sur le jugement que va probablement subir cet infâme scélérat, et puisse-t-il vous servir au moins d'avertissement pour ne pas mépriser à l'avenir les avis d'un homme qui fatigue tous les jours le ciel de ses prières pour votre prospérité. Si vous ne m'eussiez interdit certaines corrections qu'il méritait si bien, j'aurais chassé une grande partie de cet esprit diabolique du corps d'un enfant dont j'avais découvert que le diable avait pris entièrement possession dès sa plus tendre enfance. Mais ces sortes de réflexions viennent aujourd'hui trop tard. Je suis fâché que vous ayez donné si promptement le bénéfice de Weston. Je vous l'aurais demandé plus tôt si j'avais pu prévoir que vous ne m'eussiez pas consulté avant d'en disposer. Votre objection contre la pluralité est par trop rigoureuse. S'il y avait le moindre crime à cela, tant d'hommes d'une piété exemplaire ne se la permettraient pas. Si le curé d'Aldergrove venait à mourir, car l'on m'a mandé qu'il déclinait de jour en jour, j'espère que vous penserez à moi, puisque je suis sûr que vous devez être convaincu de mes vœux les plus sincères pour votre plus grand bonheur. Bonheur devant lequel toutes les considérations mondaines sont aussi faibles que le paiement des petites dîmes dont il est parlé dans l'Écriture sainte, comparé à l'observation des préceptes importants ordonnés par la loi divine. Je suis, monsieur, votre fidèle et humble serviteur, Roger Thwackum. » C'était la première fois que Thwackum écrivait à Allworthy dans ce style impératif, et il eut dans la suite des raisons suffisantes de s'en repentir, comme ceux qui prennent un noble excès de bonté pour un lâche excès de faiblesse. La vérité est qu'Allworthy n'avait jamais aimé cet homme. Il le connaissait pour être vain et d'un mauvais naturel. Il savait aussi que sa religion avait une teinte de son caractère, au point qu'à beaucoup d'égards, il la désapprouvait entièrement. Mais cet homme était d'un autre côté un excellent maître et infatigable dans les leçons qu'il donnait à ses deux élèves. Ajoutez à cela l'extrême sévérité de ses mœurs, une honnêteté irréprochable, la plus grande dévotion. En sorte qu'au total, quoique Allworthy ne l'estimât ni ne l'aimât, il n'avait pu prendre sur lui de renvoyer un précepteur qui, autant par son savoir que par son talent à enseigner, était extrêmement propre à remplir cette fonction. Il espérait d'ailleurs que les deux enfants étant élevés dans sa maison et sous ses yeux, il serait à portée de corriger ce qu'il pourrait y avoir de mauvais dans les instructions de Thwackum. Chapitre 5. Où l'histoire continue. Nous avons vu que M. Allworthy avait parlé de Jones avec le plus vif intérêt. Les sentiments tendres qu'il avait exprimés pour lui avaient rempli de larmes les yeux de cet excellent homme. Mrs. Miller, en ayant fait la remarque, lui dit « Oui, oui, monsieur, votre bonté pour ce pauvre jeune homme est connue, malgré tous vos soins pour la cacher. Mais il n'y a pas une seule syllabe de vrai dans tout ce que ces coquins ont dit. Monsieur Nightingale vient de tout découvrir. Il paraît que ces gens étaient employés par un lord qui est le rival du pauvre monsieur Jones et qu'ils avaient ordre de le presser à bord d'un vaisseau. Je ne sais à présent qui se trouvera à l'abri de la presse. Monsieur Nightingale, ici présent, a vu l'officier lui-même. qui est un homme bien né, et qui lui a tout dit. Il est extrêmement fâché de la commission qui lui a été donnée, et dont il ne se serait pas chargé s'il avait su que M. Jones fût un gentilhomme. Mais on lui avait dit que c'était un de ces vagabonds qui errent dans les rues. Allworthy fut frappé de surprise en entendant tout cela, et déclara qu'il ne comprenait pas un mot de ce qu'elle disait. « Oui, monsieur, répondit-elle, je crois bien que vous n'y comprenez rien. C'est une histoire très différente, je crois, de ce que ces gens ont dit à l'homme d'affaires. »« Quel homme d'affaires, madame? Que voulez-vous dire ?» dit Allworthy. « Vous faites toujours comme cela, reprit-elle, vous ne voulez jamais convenir de votre bonté. » « Mais M. Nightingale, ici présent, l'a vu. »« Vu qui, madame ?»« Qui ? Votre homme d'affaires, monsieur, que vous avez eu la bonté d'envoyer chercher pour vous informer de l'affaire. »« Je suis toujours dans la même obscurité, sur mon honneur. »« Dites-lui donc vous-même ce que vous avez vu, mon cher Nightingale. »« Oui, monsieur, dit Nightingale. »« J'ai vu ce même homme d'affaires qui sortait de votre appartement quand j'y suis entré. »« Je l'ai vu dans un cabaret à Aldersgate. » avec deux des gens employés par Lord Fellamar pour racoler de force M. Jones, et qui, en conséquence, avait été présent à la malheureuse rencontre qui a eu lieu entre lui et M. Fitzpatrick. J'avoue, monsieur, dit Mrs. Miller, que quand je le vis entrer chez vous, je dis à M. Nightingale que je présumais que vous l'aviez envoyé chercher pour vous informer de l'affaire. Allworthy témoigna par l'expression de son visage combien il était étonné de cette nouvelle. Il en fut frappé au point de rester muet pendant 2 ou 3 minutes. Enfin, s'adressant à M. Nightingale, il lui dit « Je dois avouer, monsieur, que je suis plus surpris de ce que vous me dites que je ne l'ai été jamais dans le cours de ma vie. « Êtes-vous certain que ce soit la personne ?»« J'en suis très certain, répondit Nightingale. « À Aldersgate ? Et vous vous êtes trouvé avec cet homme d'affaires et ces deux gens ?» J'y ai resté, monsieur, près d'une demi-heure. Eh bien, monsieur, de quelle manière cet homme d'affaires s'est-il conduit? Avez-vous entendu tout ce qui a été dit entre lui et eux? Non, monsieur, ils étaient ensemble avant que j'arrivasse. L'homme d'affaires n'a dit que peu de choses en ma présence. Mais, après que j'eus plusieurs fois interrogé ces deux hommes qui persistaient à dire le contraire de ce que j'avais entendu dire à M. Jones, et ce que l'aveu de M. Fitzpatrick lui-même m'a fait découvrir pour être un mensonge infâme, l'homme d'affaires les engagea à ne dire que la vérité, et il eut l'air de parler tellement en faveur de M. Jones que quand j'ai revu la même personne chez vous, j'en ai conclu que votre bonté vous avait porté à l'envoyer à Aldersgate. « Ne l'y avez-vous pas envoyé, en effet ?» dit Mrs. Miller. « Non, en vérité, répondit M. Allworthy. « Je n'apprends qu'à l'instant qu'il s'est chargé d'un pareil message. »« Je vois tout, à présent, dit Mrs. Miller. Sur mon âme, je vois tout. Il ne faut pas s'étonner s'il s'était enfermé secrètement tout à l'heure. Mon fils Nightingale, je vous prie de courir sur le champ après ces gens-là. Tâchez de les découvrir s'ils sont encore à terre. J'irai moi-même. »« Chère Madame Miller, dit Allworthy, ayez un peu de patience. » Et rendez-moi le service d'envoyer un domestique là-haut pour faire descendre M. Dowling, s'il est dans la maison. Sinon, M. Blifil. Mrs. Miller sortit en murmurant quelque chose entre ses dents, et revint bientôt avec la réponse que M. Dowling était sorti, mais que l'autre, c'est ainsi qu'elle l'appela, allait venir. Allworthy était d'un tempérament plus froid que cette excellente femme dont tous les esprits étaient disposés à guerroyer pour la cause de son ami. Il n'était pas cependant sans quelques soupçons qu'il se rapprochait beaucoup des siens. Quand Blifil entra dans la chambre, il lui demanda avec un visage très sérieux, et en jetant sur lui un regard moins tendre que de coutume, s'il était instruit que M. Dowling eût vu aucune des personnes qui étaient présentes au duel qui avait eu lieu entre Jones et un autre gentilhomme. Il n'y a rien de si dangereux qu'une question faite à l'improviste, pour un homme dont l'intérêt est de cacher la vérité, ou de défendre le mensonge. C'est pour cela que ces respectables personnages, dont la noble fonction est de sauver la vie à leurs semblables au tribunal de Old Bailey, prennent le plus grand soin, après les avoir interrogés préalablement et à plusieurs reprises, de prévoir toutes les questions qui peuvent être faites à leurs clients le jour où ils comparaîtront devant leur juge, afin de leur fournir des réponses prêtes et convenables que la plus fertile invention ne pourrait leur fournir au moment même. D'ailleurs, la soudaine et violente impulsion que ces sortes de surprises donnent au sang cause souvent une telle altération dans les traits que le coupable est forcé de témoigner contre lui-même. Telle fut l'altération qui se fit remarquer sur le visage de Blifil à cette question soudaine. Et elle fut si frappante que nous avons peine à blâmer la vivacité de Mrs. Mella, qui s'écria sur le champ « Coupable sur mon honneur, coupable sur mon âme !» Allworthy la reprit sévèrement de cette violence. Puis, se tournant vers Blifil, qui aurait voulu être sans pied sous terre, il lui dit « Pourquoi hésitez-vous, monsieur, à me répondre ?» Certainement c'est vous qui lui avez donné cette commission, car il ne s'en serait pas chargé de son propre mouvement, j'en suis bien sûr, surtout sans m'en prévenir. Blifil répondit alors « J'avoue, monsieur, que je me suis rendu coupable d'une offense envers vous. Je crois pouvoir cependant espérer que vous voudrez bien me pardonner. »« Vous pardonnez ?» dit Allworthy, très en colère. « Oui, monsieur, reprit Blifil, je savais que vous seriez offensé. Mais sûrement mon cher oncle excusera une démarche qui a été le simple effet de la plus douce des faiblesses humaines. La pitié pour ceux qui ne la méritent pas est un crime, je l'avoue. Mais c'est un crime dont vous n'êtes pas vous-même entièrement exempt. Je sais que je m'en suis rendu coupable en plus d'une circonstance pour ce même homme, et j'avouerai que j'ai chargé M. Dowling non de faire une vaine et inutile information, mais de tâcher de découvrir les témoins et d'adoucir leur déposition. Voilà, monsieur, la vérité. Quoique j'eusse l'intention de vous la cacher, je ne vous la nierai point. J'avoue, dit Nightingale, que la chose m'a paru telle que monsieur vient de l'exposer. À présent, madame, dit Allworthy, je crois que vous conviendrez une fois dans votre vie que vous avez conçu un faux soupçon et que vous n'êtes plus si fâché contre mon neveu que vous l'étiez. Mrs. Mella garda le silence, car bien qu'il lui fût impossible de prendre, en aussi peu de temps, du goût pour Blifil, qu'elle regardait comme ayant été l'auteur de la ruine de Jones, cependant, dans cette circonstance particulière, il lui en avait imposé comme à tous les autres, tant le diable s'était montré fidèlement son ami. Aussi, je regarde cette observation vulgaire, que le diable abandonne souvent ses amis et les laisse dans le piège, comme une grande calomnie indigne de son caractère connu. Il peut quelquefois abandonner ceux qui ne sont que de simples connaissances d'un moment, ou qui ne lui sont tout au plus qu'à moitié dévoués. Mais généralement, il reste à côté de ceux qui sont ses serviteurs, jusque dans le fond de l'âme, et les secourt dans toutes les extrémités où ils se trouvent, jusqu'à ce que le pacte fait entre eux expire. Comme une rébellion étouffée augmente la force d'un gouvernement, ou comme la santé est plus parfaitement assurée après la maladie, la colère, une fois éteinte, redonne souvent une nouvelle vie à l'affection. M. Allworthy se trouva dans ce dernier cas, car Blifil, ayant écarté le soupçon le plus grave, celui qu'avait fait naître la lettre de Square, tomba dès lors et fut oublié. Ce fut Thwackum, contre lequel il était vivement irrité, qui porta seul le poids des malédictions que Square avait lancées sur les ennemis de Jones. Quant à celui-ci, le ressentiment de M. Allworthy à son égard commençait à diminuer de plus en plus. Il dit donc à Blifil que non seulement il lui pardonnait cette preuve rare de son bon naturel, mais qu'il voulait lui donner le plaisir d'imiter son exemple. Puis, se tournant vers Mrs. Mella, avec un sourire tel qu'on en pourrait supposer sur les lèvres d'un ange, il s'écria « Qu'en dites-vous, madame? Prendrons-nous une voiture pour aller tous ensemble rendre visite à votre ami? Je vous promets que ce n'est pas la première que j'ai faite dans une prison. » Tous mes lecteurs, je pense, pourront répondre comme cette digne femme. Mais il faut qu'ils aient reçu de la nature une magnifique portion de bonté, et qu'ils se connaissent bien en amitié, ceux qui pourront sentir ce qu'elle sentit en cette occasion. Il y en a peu, je l'espère, en état d'éprouver ce qui se passait dans le cœur de Blifil. Mais ceux qui sont dans ce cas reconnaîtront qu'il lui était impossible d'élever aucune objection contre cette visite. Cependant, le hasard, ou ce compagnon fidèle dont nous avons parlé plus haut, se montra constamment son ami et l'empêcha de se trouver à une entrevue si cruelle pour lui. Car, au moment même qu'on envoyait chercher la voiture, Partridge arriva, et ayant appelé Mrs. Miller en particulier, l'instruisit du terrible secret nouvellement découvert. Ayant appris d'elle ensuite quelle était l'intention de M. Allworthy, il la pria de trouver quelque moyen de l'en détourner. « Car, ajouta-t-il, le fait doit, à tous égards, rester un secret pour lui. Et s'il faisait à l'heure qu'il est cette démarche, il trouverait M. Jones avec sa mère qui arrivait au moment même que je sortais, et les entendrait se lamenter l'un et l'autre du crime horrible qu'ils ont commis sans le savoir. » La pauvre femme, qui se trouva presque totalement privée de l'usage de ses sens à cette épouvantable nouvelle, ne fut jamais moins capable d'invention qu'en ce moment. Cependant, comme en général les femmes ont l'imagination beaucoup plus prompte que les hommes, elle s'avisa d'une excuse, et se rapprochant d'Allworthy, lui dit « Je suis sûr, monsieur, que vous serez surpris d'entendre de ma bouche une objection à l'obligeante proposition que vous venez de faire. » Mais je ne vous cache pas que j'en redouterais les conséquences si vous la mettiez sur le champ à exécution. Vous devez vous imaginer, monsieur, que tous les malheurs qui ont accablé depuis peu ce pauvre jeune homme ont dû jeter ses esprits dans le plus grand abattement. Or, monsieur, si nous allions tout à coup lui causer un transport de joie aussi vif que le sera, j'en suis sûr, celui que lui occasionnera votre présence, je craindrais que cela ne produisît quelque accident fâcheux. D'autant plus que son domestique, qui est à la porte, m'assure qu'il est loin d'être en parfaite santé. « Son domestique est-il là ? » s'écria Allworthy. « Je vous prie, faites-le entrer. Je veux lui faire quelques questions relatives à son maître. » Partridge fut d'abord effrayé de paraître devant M. Allworthy, mais il se laissa persuader, après que Mrs. Miller, qui avait souvent entendu son histoire de sa propre bouche, lui eut promis de le présenter. Allworthy reconnut Partridge dès qu'il entra dans la chambre, quoiqu'il ne l'eût pas vu depuis un grand nombre d'années. Mrs. Miller aurait donc pu s'épargner ici un discours en règle, dans lequel il faut convenir qu'elle fut un peu prolixe. Car le lecteur, je crois, peut avoir déjà observé que l'excellente femme avait, entre autres bonnes qualités, une grande volubilité de langue, toujours au service de ses amis. « Vous êtes donc, dit Allworthy à Partridge, le domestique de M. Jones ?»« Je ne puis dire, monsieur, répondit-il, que je sois proprement un domestique. Mais sauf le respect que je vous dois, je vis avec lui pour le présent. Non sum qualis eram. Je ne suis pas tel que j'étais, comme monsieur sait fort bien. » M. Allworthy lui fit alors beaucoup de questions sur Jones, sur sa santé et sur d'autres objets. Partridge répondit à tout, sans aucun égard à ce qui était vrai ou non, mais suivant seulement ce qu'il désirait que les choses parussent. Car un strict attachement à la vérité n'était pas au nombre des articles de morale ni de religion de cet honnête garçon. Durant ce dialogue, M. Nightingale prit congé, et un moment après, Mrs. Miller quitta la chambre. Allworthy fit alors sortir Blifil, car il imaginait que Partridge seul, avec lui, s'expliquerait plus librement qu'en compagnie. Ils ne furent pas plus tôt en particulier qu'Allworthy lui parla, comme on le verra dans le chapitre suivant.